Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi, on est avec Cédric Emmons, on est avec Philippe Saint-André, on est avec Jérôme Pinault et Marion Bartoli. Tiens, Jérôme, à une semaine du Tour de France habituellement, on est comment? Tiens, parce que là, ça commence samedi prochain. Hein.
Tu veux dire moi ou les coureurs?
Les coureurs. À toi.
T'es à la tête, t'es parti déjà, t'es à la tête au départ, t'es plus à la maison. Même si tu es physiquement là.
Mais tu vas faire les championnats de France, par exemple, souvent.
T'as les championnats de France qui, selon tes ambitions au championnat de France, c'est une course importante quand même, mais tu as toujours cette retenue de dire dans une semaine c'est le tour c'est le Graal. Pour ceux qui y vont pour la première fois, ils y sont, ils sont déjà la tête au tour.
Tu rentres chez toi après le championnat de France quand même?
Ouais, ils rentrent chez eux ce soir ou demain.
Tu rentres chez toi?
Moi je rentre chez moi.
tu fais beaucoup de sorties avant le Tour de France,
ouais, une semaine avant. La prépa est finie, mais il faut pas oublier de rouler quand même, il faut y aller. Donc avec cette chaleur, il faut bien gérer tes entraînements pour pas aller au pic de chaleur et laisser trop de jus. Faut entretenir la machine, il y a un dernier appel assez important mercredi, une grosse dernière sortie avant d'aller sur le lieu du départ. Et puis derrière, c'est le plus long, c'est l'attente.
Grosse dernière
arrivée mercredi pour la première étape samedi.
Grosse dernière sortie de physique, une séance physique ou de kilomètres?
Non, une longue séance d'entraînement pour bien éliminer tout. C'est 4-5 heures endurance en zone 1, zone 2, mais il faut la faire avec un petit rappel de vitesse jeudi ou vendredi parce que ça commence par un contre-la-montre par équipe. Et puis te dire aussi que ça va durer 3 semaines. Et que si t'es pas terrible au départ, c'est pas grave, ça, t'as le temps de remettre en
place. Cédric, il est que sur la vitesse.
Moi, la zone 1, 2, je connais pas. Je suis en 3, 4, que de la vitesse.
En tout cas, merci pour les précisions, Jérôme, parce que j'avais un message d'un certain Tadej qui me demandait quoi faire cette semaine pour préparer le Tour de France.
Il s'occupe du Urska, il est à la maison.
Je rappelle que l'équipe de l'Intégral Tour, évidemment, part dès mercredi pour Barcelone.
Première vitesse mercredi.
Exactement, présentation des équipes au pied de la Sagrada Familia. Ça va être la classe, ça. À Barcelone. Et les grandes gueules du sport, on sera sur place samedi et dimanche au sommet de la colline de Montjuïc dans le parc olympique où on va disputer l'arrivée du contre-la-montre individuel. Oh, par équipe.
On a hâte d'y être.
Ah, j'ai hâte d'y être. Oh là là, j'ai hâte d'y être. Ça va être un week-end, sacré week-end, week-end prochain, de France-Nouvelle-Zélande en rugby, peut-être France-Allemagne en Coupe du Monde, Wimbledon, Tour de France. Ça va, ceux qui aiment le sport, là, vous êtes bien ou pas? Allez, dans un instant, les GG sur le buzzer. La Coupe du Monde débute-t-elle enfin avec le premier 16e de finale ce soir entre l'Afrique du Sud et le Canada? Et dans deux jours France-Suède. En fin d'émission, participez au jeu du sport. Hein. Inscrivez-vous pour participer avec les amis. Remportez aujourd'hui un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint pour imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances, notamment pour emporter votre bon cadeau Agfa Photoprint. Appelez le 32-16, touche 4 pour envoyer sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. On fait plus assez d'albums photos, non, franchement. D'albums photos comme ça, là, pour revoir.
Ça ressort un peu. On sort les Polaroids dans les soirées.
Je suis sûr que Philippe, il y a des albums photos de.
J'adore.
Philippe, t'as les albums photos des premiers matchs, j'en suis sûr. Dans la boue.
Ouais, c'est chez mes parents.
Ah non. Moi, de temps en temps, c'est ressenti. Ah, regardez Philippe, il était mignon.
Pour mon ego dans ma chambre.
Il était sec, il était affûté. Et après, c'est devenu le goret. Sans sordon. Allez, les amis, cette semaine, on va parler de l'ego dans le vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors, ce qui m'a marqué, et c'est pour ça qu'on va en parler, c'est une interview que j'ai lue dans le quotidien espagnol El País, cette semaine, de Lamine Yamal. Vous savez, la star de La Roja, la sélection espagnole. Il est interrogé sur son auto-perception par rapport aux attentes très importantes du public, et notamment le public espagnol, oui, de La Roja, mon cher Cédric. Il dit ceci à l'attaquant de 18 ans, « Je me vois meilleur que ce que les gens voient. » Ah, tout le monde ne dit pas ce genre de choses quand même. Hein. Certains le pensent, mais ne le disent pas forcément, surtout les sportifs de haut niveau, parce qu'ils peuvent être parfois un petit peu attaqués pour ce genre de propos. Je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui à travers vos expériences. L'importance de l'ego dans le sport de haut niveau. L'ego qui est souvent un mot un peu tabou, qui est souvent un mot un peu genre, oh là là, il va falloir gérer les égos dans un vestiaire, c'est peut-être le plus gros problème. Est-ce qu'on peut en parler? Cédric Emmons, tiens, je vais commencer par toi.
Mais bien sûr.
Vous aviez tous de l'ego, tous et toutes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est obligé d'avoir de l'ego dans le sport de haut niveau?
Je pense que ça fait partie du sportif de haut niveau d'avoir de l'ego. Après, il ne faut pas confondre ego et grosse tête ou suffisance. Tu es obligé de t'aimer
pour réussir dans le sport de haut niveau, parce que tu sais que tu vas souffrir, tu es obligé d'avoir ce recul sur tes performances, parce que si tu t'amuses à écouter tout ce qui se dit autour de toi, ben tu peux parfois être déstabilisé. Il faut vraiment se concentrer sur sa petite personne, sur l'univers dans lequel tu évolues. Et si tu ne t'aimes pas, de toute façon, tu n'es que le reflet de ce que tu envoies.
Wow.
Moi, je sais que jeune, j'ai eu la grosse tête. Je me suis bien fait remettre en place.
Ah ouais,
mais grave, par Pierre Néra, Jean Faro, si vous m'écoutez, merci.
Il y a toujours un peu.
Non, maintenant c'est de la confiance. C'est pas pareil. Et après, donc ça m'a amené une période de doute où le questionnement poussé à son extrême a amené chez moi une période de doute. Et après, le gourou Novès s'est passé par là et il m'a dit non, et confiance en toi, crois en ce que t'es capable de faire, surjoue pas.
Ah bah
et
Toulouse, si t'as pas d'ego, tu survis pas.
Exactement, parce que je donne souvent cet exemple. C'est dans le vestiaire, tu vois qui a de l'ego ou pas. Tu jettes un steak et tu sais qui va manger et qui va regarder les autres manger.
Viens la gamelle, viens.
C'est bizarre là, avec une balle.
Et t'es vraiment obligé d'avoir ce petit supplément d'ego pour réussir, parce que c'est une telle souffrance des sportifs de haut niveau que t'es obligé d'être dans la rivalité avec les autres. Mais j'insiste bien, ego ne veut pas dire avoir la grosse tête.
Philippe, tu préfères avoir un vestiaire avec de gros égos ou avec peu d'ego?
Un vestiaire avec plein d'ego.
Ah ouais?
Tu gagnes avec des joueurs qui ont des gros égos. Alors l'ego,
tu gagnes avec l'ego. Ceux qui gagnent,
l'ego est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Donc il faut déjà comprendre ce que c'est que l'ego. Sincèrement, tu peux avoir des joueurs, tu les entends sur les interviews avec beaucoup d'humilité, mais quand tu les connais, il y a que moi j'entraînais un grand demi d'ouverture et je disais celui-là il est pas mal, non il a pas de pied gauche, celui-là ah non il a pas de passe, il y avait qu'un ouvreur qui était bon, c'était lui. Tu faisais des interviews, les mecs, oh purée, il était humble, il avait beaucoup d'humilité devant les médias, mais sinon c'est des joueurs qui ont un ego surdimensionné, mais qui gagnent parce qu'ils veulent être les meilleurs. Donc ils ont un niveau d'exigence qui est incroyable.
Parce qu'il a de l'ego, il a un niveau d'exigence plus important que les autres.
Alors dans les sports individuels, c'est encore plus, mais dans les sports collectifs, il faut avoir plein de joueurs avec des égos surdimensionnés et après de faire la quintessence et qu'ils soient prêts à vivre une aventure exceptionnelle pour gagner ensemble. Donc nous, c'est une alchimie qui est beaucoup plus compliquée que dans un sport individuel.
Bien sûr. Le plus compliqué, c'est quand l'ego prend le pas sur, dans notre sport, un sport collectif, quand l'ego qu'on a beaucoup dans le vestiaire prend le pas sur l'intérêt commun.
Oui, mais alors ça, c'est les starlets, ça s'appelle. Ouais. Donc, le mec pense qu'à sa gueule. Parce que normalement, voilà, grand champion, il a un ego surdimensionné
au service du
collectif pour qu'une chose, c'est gagner et gagner des trophées.
Jérôme, t'as couru avec des coureurs qui avaient le boulard comme Tom Boonen ou Mark Cavendish
avec des grands champions
qui avaient de l'ego. Tom Boonen et Mark Cavendish, t'as été dans l'équipe Quickstep, on rappelle, c'est l'équivalent du Real Madrid en fait des classiques et même en général hein, dans le vélo, surtout à ton époque. Il y avait que des égos, il y avait que des lions. Si t'arrives avec un lionceau,
il y avait que des lions, et c'est là où moi qui ai pas un ego surdimensionné, j'ai dû travailler sur moi et faire ressortir l'ego, parce qu'on en a tous, parce qu'on est en compétition en permanence. Quand tu fais du cyclisme, la base, c'est le collectif, d'accord. Moi, j'ai été élevé dans cette idée du collectif d'abord par Jean-René Bernodeau, mais Jean-René avait lui aussi un gros ego et il fallait faire face à ce garçon-là. Et donc, tu construis ta carrière étape par étape en pensant qu'à toi. Il faut juste faire attention à la limite très fragile entre ego et égoïsme. Et là, on bascule très vite dans l'égoïsme quand on gère mal. Je crois que l'ego va avec l'intelligence. Si tu la gères mal, tu tombes dans l'égoïsme. Si tu n'es pas futé et pas très intelligent, tu as l'impression que ton ego va suffire à ta réussite, et c'est pas vrai. Après, dans un vestiaire, donc moi c'est dans le bus, il faut gérer les égos, et tu as deux types de mecs avec d'énormes égos, parce que tu as un Cavendish qui est ultra centré sur lui-même pendant la compétition, qui ne pense qu'à lui, qui est forcément convaincu qu'il n'y a pas plus vite que lui, pas plus rapide que lui, et c'est lui qui va gagner.
C'est ce qui lui fait aller vite.
Mais c'est ce qui le fait aller très vite, exactement. C'est ce qui lui fait prendre des risques et c'est ce qui lui fait gagner. Et en revanche, une fois que la course est finie, il se retourne vers les autres. Il a toujours de l'ego, c'est un meneur, mais il est toujours ce que moi j'appelle un seigneur, c'est-à-dire
qu'il est bienveillant
avec les autres. Mmh. Au contraire de certains autres. Mais il faut faire avec. Il y a des coureurs, t'en as cité un à l'instant, qui ont un ego surdimensionné et qui se fichent des autres, en fait, qui sont centrés sur eux-mêmes, mais qui...
C'est le roi et sa cour au service.
Mais quand tu es à ce niveau-là de performance, quand tu es sous les projecteurs et qu'on attend de toi uniquement une chose, c'est que tu gagnes, tu n'as pas le droit de perdre. Eh bien, c'est la difficulté qu'il faut mettre en place des choses pour pouvoir continuer à performer, gérer toi-même ton ego et le faire accepter par les autres. D'en avoir, c'est logique. Mais de le faire accepter par les autres, ça, c'est plus difficile.
S'il y a quelqu'un qui n'a pas d'ego autour de la table, c'est quand même Marlon Bartoli, hein. Moi, je peux vous le dire. On est dans le vestiaire. Sur l'importance de l'ego.
Mais attendez,
c'est intéressant parce que parfois, j'entends, on reproche à Marion. Oh, Marion, quand même, elle a de l'ego. Oui, mais attendez, Marion, c'est aussi ce qui t'a permis de gagner Wimbledon. Si t'avais pas d'ego, si t'avais pas sur le center court. Raconte-nous un peu.
C'est l'essence de la performance.
Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que je suis sûr, parfois, t'entends qu'on te le reproche. Mais qu'est-ce que tu peux dire là-dessus?
Non, mais alors je souscris totalement à ce qui a été dit par mes copains et je ne vais pas le répéter. Moi,
c'est un gros mot en France parfois, l'ego. Hein.
Oui, mais en fait, il ne faut pas confondre l'ego et l'arrogance. Et en fait, l'ego, il est nécessaire et c'est une nécessité, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour la grande performance et pour la haute performance. Sinon, très honnêtement, rentrer devant 15 000 personnes pour un terrain de tennis, voire plus grand quand tu joues dans les plus grands stades, et des millions de gens qui vous regardent dans la télé et que vous avez Serena en face de vous, ou Vénus, ou Justina, ou Kim Clijsters, ou Amélie, ou toutes les joueuses que j'ai, ou Sharapova, ou toutes les joueuses
si t'as pas une grande estime de toi,
si tu fais petite fille, tu dis je suis désolée, mais je vais regarder devant la télé parce que c'est mieux.
À un moment donné,
il faut l'ego, il faut être persuadé qu'effectivement tu as ta place et que en fait pour moi l'ego c'est une force à partir du moment où il est maîtrisé, c'est-à-dire que canaliser pour moi c'est le moteur de l'excellence. L'ego te permet de résister à la critique, c'est-à-dire que tu vas être persuadé que tu vas y arriver.
Mais tu veux prouver que c'est les autres ont tort.
Voilà, exactement. Pour ma part, c'était moteurs. Mon moteur essentiel de me dire que depuis que j'avais l'âge de 8 ans, je rêvais de remporter un tournoi du Grand Chelem, mais si possible, effectivement, par rapport à mon jeu, plutôt Wimbledon, mais j'aurais adoré, bien évidemment, remporter Roland Garros. Alors, tout le monde me disait que j'étais vraiment, mais très, très loin du compte. Et si t'as pas d'ego, effectivement, tu écoutes, on va dire,
ils ont peut-être raison.
Les voix populaires qui vont te dire, finalement, oui, je suis peut-être pas fait pour ça, et puis, quart final, ça me suffira largement, et puis d'être rentrée mondiale, c'est très, très bien au final. Donc, l'ego est nécessaire. En revanche, là où l'ego devient destructeur pour moi, c'est quand en fait, n'est plus capable d'entendre la critique. C'est-à-dire que tu ne veux plus progresser, que tu arrives plus à écouter tes entraîneurs ou écouter les gens qui croient en toi, mais te montrent aussi qu'il y a des failles et que donc il va falloir progresser si tu veux arriver réellement à aller challenger les meilleurs. Et c'est là où moi, effectivement, j'ai passé ma vie à travailler pour avoir cette quête finale. Mais tu ne peux pas être une personne normale avec, on va dire, un système de pensée normal et rentrer sur une finale de Grand Chelem ou sur des matchs à très haut enjeu. Il faut croire en soi, il faut être un peu fou. Mais comme une finale de Coupe du Monde, comme tirer un penalty pour faire gagner mon équipe sur une finale de Coupe du Monde, c'est des moments qui sont quand même dans une vie.
C'est que quand tu n'es pas capable d'écouter. Dû à ton ego.
Exactement. Quand tu n'arrives plus à écouter la critique.
Exactement. Ton entourage.
Là,
proche,
ça devient compliqué. Tu
n'arrives plus à l'écouter et cette position qui te dit mais j'ai raison, je vais continuer et tu vas jusqu'au bout
la
de ta démarche.
La critique constructive, il faut vraiment l'écouter.
Le sport de haut niveau, c'est une jungle incroyable. Et donc, que ça soit dans le cyclisme, dans le tennis ou dans le rugby, il y en a 10 000 qui veulent y arriver et tu n'en as que 15 ou 20. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir de l'ego, il faut avoir de autodétermination. Par contre,
on en a vu dans des vestiaires des joueurs qui se contentaient d'être remplaçants, qui étaient bien dans la vie de groupe. Mais c'est pas des grands champions.
Ou des coureurs dans le peloton, Jérôme, qui se font bousculer et qui laissent passer le patron.
À partir du moment où tu as décidé de subir, tu mets ton ego de côté et tu vas subir, mais tu feras pas la carrière et tu feras pas partie des meilleurs. Sans ego, tu ne fais pas partie des meilleurs.
Mais Marion, par exemple, moi je veux savoir, quand tu rentres sur le center court, que tu affrontes Serena Williams.
Oui.
Qui est la meilleure joueuse de tous les temps.
Elle a envie de la becter.
Non mais qu'est-ce que tu te dis? Non mais c'est ça.
Mais elle a envie de la becter. C'est comme nous quand on jouait les All Blacks. Si tu as peur du haka, tu te mets pas face aux All Blacks.
Toutes ces intentions face aux All Blacks, c'était pour ça. C'est-à-dire, on est là, on est présent, on va vous montrer que on existe ce moment-là.
Marion, tu t'es vraiment dit, je vais bouffer Serena Williams en rentrant sur le center court?
Bien évidemment, mais sinon tu rentres même pas sur le court. Mais en plus, elle le sent.
C'est-à-dire tu te parles beaucoup.
Quand tu rentres sur de telles joueuses, ou même quand t'as Novak ou Roger ou Rafa sur le terrain, ils sentent l'odeur du sang. Donc si tu commences à faire, c'est la loi de la jungle. T'as une lionne en face de toi, et si tu commences à faire l'antilope, bah ouais, effectivement, tu vas te faire bouffer assez rapidement. Si c'est un combat lion ou de lionne et qu'à un moment donné, bah tu rentres avec des armes que tu sais que tu vas être capable de servir à une certaine vitesse, donc du coup, elle aura peut-être un peu moins la possibilité de mettre des retours gagnants que si t'as une micro faille sur un moment donné de jeu de service, bah tu vas t'y engouffrer. En tout cas, tu vas tenter de le faire. D'ailleurs, elle va beaucoup plus se respecter pour ça. Mais Marion, et c'est là où justement ces grands champions sont la capacité de eux de se remettre en question. Quand tu vois Novak Djokovic, la manière dont il a fait évoluer son jeu au fur et à mesure des années, Rafa Nadal, la manière dont il a fait évoluer son jeu au fur et à mesure des années, pareil pour Roger, Sinner ne joue pas la même façon il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Ces immenses champions ont la capacité d'avoir assez de recul et assez d'humilité quand il faut à l'entraînement pour progresser. Par contre, quand ils sont sur le terrain, mais je t'explique, mais s'ils peuvent te manger, ils vont te manger, mais ils vont te acheter menu.
C'est cette image d'odeur du sang. Ça, oui, c'est vraiment quand tu rentres les 3-4 minutes avant de rentrer, mais t'es imprégné par ça.
Vous commencez à me faire peur, hein, mais.
Non, mais. Tu sais que tu vas. Faut relativiser, mais tu sais que tu vas
la. C'est des prédateurs,
ouais,
en fait.
Exactement, ouais, prédatrice.
Tu dis,
je suis le plus fort de la jungle. Comme tu allais dire certainement, genre, c'est un outil de motivation, c'est un outil où tu vas chercher ça, où quand t'as souffert et que t'as ce petit goût en bouche.
C'est un outil de motivation, mais c'est aussi un outil, c'est un moteur dans l'après-carrière aussi.
Et c'est ce qui manque quand tu arrêtes. Hein.
J'ai une anecdote qui est assez incroyable là-dessus. C'était Jacques Fourou qui était un entraîneur incroyable. Et à un moment donné, il a un choix à faire entre deux joueurs. Les médias voulaient un joueur, lui voulait l'autre. Et donc, il fait une conférence de presse. Et il dit, les gars, les deux, pendant 15 jours, on ne leur donne pas à manger. Je les mets dans une salle. Et je mets un steak.
Vous êtes tarés avec vos steaks.
Qui est-ce qui mange le steak? Et donc tous les mecs, ils disent ce joueur-là qu'il ne voulait pas. Et donc il dit lui titulaire, l'autre remplaçant.
Mais c'est trop à l'extrême.
En encadrant des jeunes, c'est ce que je leur dis, c'est celui qui a faim qui va y arriver. C'est celui qui est capable de faire le mètre de plus.
Pour chaque entraînement, vous allez à la boucherie, les gars, en fait.
C'est quoi l'histoire?
C'est celui qui a la grinta.
On a tous des anecdotes comme ça. Moi, je me souviens d'un championnat de France, justement, à cette période-là. J'avais pas signé mon contrat et c'est de rigueur dans cette équipe. T'as pas signé de contrat, tu vas pas au tour. Et mon manager de l'époque, Jean-René, me dit t'iras pas au tour. Il y avait le championnat de France à Aurillac. Je dis on va voir si je vais pas aller au tour. J'ai fait une course de folie, j'ai écrasé les adversaires, j'ai pas gagné. Le soir, il me dit on fait la sélection demain. Mais je la connais la sélection, j'y vais autour. Tu peux pas te passer de moi.
Parce que là, en fait, ton carburant, ça a été voir ce que tu vas voir. Tu vas voir qui je suis.
Mais bien sûr.
Tu vas voir qui je suis.
Tu vois, il tourne à même carburant que moi.
Et ça nous sert après notre carrière. Après notre carrière, ce qu'il faut bien gérer, c'est quand t'es à la maison, t'es plus sur le terrain. Donc, faut bien gérer l'ego dans la famille.
Mais quand tu es à la maison, c'est qui mange le steak.
Et par contre, quand tu as des moments difficiles, moi, j'ai connu des moments très difficiles après l'arrêt de l'équipe et après les déboires de l'équipe BNB Hotel. Sans ego, j'y arrive pas. Tu te relèves pas. C'est un outil qui va te servir toute ta vie pour aller démarcher, pour aller chercher.
Sinon, on n'arriverait pas à finir 3 heures des grandes gueules du sport. Est-ce qu'on prend dans la tête?
Exactement. Mais c'est pareil pour les hommes politiques, pour les chefs d'entreprise. Ils sont dans la même ADN.
Exactement. Non, mais c'est vrai.
Mais tu le ramènes à responsabilité.
Le président de la République, il a pas d'ego.
Mais Georges, vous, c'est pareil. Il y en a 10 qui veulent faire les grandes.
C'est toi,
c'est
toi. C'est toutes ces nuits d'insomnie où t'arrives pas à dormir, où tu te poses des questions.
À chaque fois que je rentre dans le studio et je vois Christophe Cessieux, je me dis je vais le becter. Très clairement. Le problème, c'est si je mets un steak, il arrivera toujours en premier.
J'allais te dire, c'est pas le test du steak.
On parle de l'importance de l'ego dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Philippe, t'as entraîné en Angleterre. Ouais. En Angleterre ou peut-être dans les pays anglo-saxons en général, où avoir beaucoup d'ego, j'ai l'impression que c'est très valorisé.
C'est mieux vu.
Non mais en France, c'est un peu un mot.
Alors aux États-Unis encore plus.
En France, ego égale grosse tête, c'est
faux. Oui, parce qu'en France, on confond tout l'ego en disant celui-là, il a un cigare.
Regarde Mbappé,
il a aucune humilité. Tu peux avoir de l'ego et puis avoir de l'humilité. Mais nous, on confond tout. Mais un grand champion, il a besoin de cet ego. Sinon, il se fait bouffer. Sinon, il se fait becter.
Et donc, à partir de
États-Unis, hein.
Voilà, et quand
Jordan, Michael Jordan, c'est lui qui voulait à chaque fois prendre le shoot sur le buzzer, hein.
Mais bien sûr, il est perfusé à ça. Il n'attend que ça. Il est là que pour ça. Et ce qu'ils ont, contrairement à nous, c'est que eux, anglo-saxons, États-Unis, ils le disent.
Mais c'est un choc culturel quand tu vas en Angleterre.
Ben oui. C'est un choc culturel. Ouais.
L'anecdote de mon amitié avec Mark Cavendish, elle part d'une journée très spéciale au Tour de France.
Cavendish qui est britannique, on rappelle.
Il vient d'Île-de-Man. Fait 6 ou 7 étapes du Tour. Il a toujours pas gagné. Et il gagne dans une étape où son le poisson pilote lance un bidon, là, enfin bref, je sais plus.
Rencho?
Je sais plus, ouais, Rencho est éliminé de la course et lui gagne. Il est tellement critiqué parce qu'à l'époque, il y a la guerre avec Greppel et dans la même équipe. Moi, je suis maillot à poids du Tour. On va backstage avant le podium.
En coulisses.
Il est en larmes. Il est effondré.
Il a gagné, il est
soulagé d'avoir gagné. Il est donc en larmes. Un petit garçon. Moi, cette anecdote, je lui ressortirai plus tard en lui disant, là, j'ai vu le vrai mec que tu es. Parce qu'avant, il était imbuvable. Et il va chercher le trophée de la victoire d'étape, il répond aux interviews, et là, l'ego reprend le dessus, parce qu'il veut convaincre et se convaincre, il dit, je suis le meilleur sprinter du monde, gagner sur le Tour, ça devait arriver, c'est la première et ça va continuer.
Il fait des déclarations la plupart du temps pour se rassurer lui-même.
Souvent.
Il dit, ben oui, c'est
Yamal qui dit ça. Je pense qu'il en a besoin
à ce moment-là.
Tu sais, ça s'appelle le body language.
Exactement.
Non, tu sais ce qu'il fait.
Le body language.
Et, par exemple, les équipes de rugby en Angleterre, moi, quand j'ai entraîné à la 40e minute, quand l'arbitre siffle, il fallait rentrer en sprint au vestiaire.
Pour dire t'es frais.
Voilà. Pour dire, on est frais, on est mieux physiquement que vous.
C'est juste une préparation mentale.
Hier, Dupont rentre au vestiaire à la mi-temps en courant. Hein.
Ouais. Non mais Dembélé aussi face à la Norvège, l'a ben fait. Oui. Non mais toi, quand je t'ai dit c'était un choc culturel, tu m'as dit ah bah oui, choc culturel en Angleterre.
Ah oui.
T'as été surpris au début.
Mais surpris.
Parce que c'est vrai qu'en France c'est un peu le dictat c'est de l'humilité quoi.
D'ailleurs, un joueur comme Sébastien Chabal, qui était décrié en France,
ça l'a transformé de devenir à Manchester, ça l'a transformé.
C'est poussé la barbe.
Mais Thierry Henry, il s'est construit à Arsenal aussi.
T'as raison. Ouais, mais après aussi, pour Sébastien Chabal, Bourgoin, il était près des stations de ski, il était près de Lyon, il était près de la plage. À Manchester, 300 jours de pluie par an, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné, il s'est mis à la salle de musculation. Et donc, après, il était pénible à prendre, on va dire.
Ça se construit en égo ou c'est inné?
Je crois que tu l'as. Mais ça s'entretient et ça se développe.
Ça s'entretient, oui.
Et ça peut se développer aussi avec des bons entraîneurs et des bons éducateurs.
Oui, puis ça se développe avec ta carrière, puisque comme le dit Philippe, on est tous là autour de la table. Le parcours n'est pas simple pour y arriver. Il faut en donner des coups de coude pour être parmi les élus, alors qu'il y a tellement de monde au départ.
Au final,
tu te construis comme ça. Ça va avec ce que je dis souvent, et parfois on me regarde un peu de travers quand je dis ça. On n'est pas des gens normaux quand tu fais du sport de haut niveau. Et tout ça est exacerbé. La problématique, et je vais vous repérer, c'est d'arriver à gérer ça une fois que c'est fini.
Le plus dur aussi, et là Philippe peut peut-être en témoigner, c'est que quand tu as de l'ego dans ton vestiaire de la part de tes joueurs et que tu as de l'ego de la part de ton entraîneur.
Mais ton entraîneur a aussi beaucoup d'ego.
Et l'équilibre est fragile parce qu'il faut laisser de la place à tout le monde. Il faut laisser le joueur devenir un peu star, mais il faut le remettre à sa place. C'est pas forcément simple.
Mais juste les quatre là, on a fait, on va dire une petite carrière, mais on a fait une carrière. Combien de fois le jeudi soir, le vendredi, quand tes copains te disent on va en boîte de nuit,
moi, j'y allais,
on va en fête, et que toi tu restes chez toi,
et que tu vas t'entraîner, et que tu as
des matchs à préparer, etc.
Philippe, les réunions de famille, les repas, les dimanches sacrifiés.
Mais
c'est parce que tu penses que t'es capable d'arriver très haut si tu fais ces sacrifices.
Mais moi j'avais des potes à moi, ils étaient plus doués que moi. Mais eux le jeudi, ils préféraient.
Bah, j'allais sortir.
Et donc à un moment donné, on dit l'ego ou l'autodétermination ou le fait.
C'est aussi le travail.
Mais c'est aussi le travail. Mmh. Et ce travail qui est invisible, mais sur 10, 15 ans, qui fait une différence incroyable. Mmh. Alors maintenant, j'y vais le jeudi.
je le provoque. Il envoie des coups de WhatsApp. Rendez-vous le jeudi.
Voilà. Mais les sacrifices, il y a des sacrifices qui sont
invisibles.
Ça
nourrit
tout ça. Kobe.
Ça nourrit
ça. C'est Kobe Bryant, ça.
Kobe Bryant, Marion.
Marion, j'ai pas.
Vas-y, Marion.
Non, excuse-moi. Mais non, mais c'est l'histoire de Kobe Bryant qui expliquait que pendant des étés, il passait des étés, personne voulait le prendre dans son équipe. Il marquait un point. C'était le plus fin, le plus gringalé. Il n'arrivait pas à prendre de muscles. Il pensait ne jamais être drafté, etc. Et puis, en fait, il a compris que s'il s'entraînait deux fois plus que les autres, donc s'il commençait ses journées à 4 heures du matin dans les salles de gym et qu'il faisait 4 trainings par jour, 4 entraînements au lieu de 2, ben, au bout de 5 ans, il allait rattraper tout le retard qu'il avait. Oui. Et au final, c'est devenu un des plus grands basketteurs de tous les temps.
Et à la fin de sa carrière, il s'est entraîné peut-être 2 ans de plus que tout le monde.
Tiens, juste le mot de la fin avant de fermer la porte du vestiaire, parce que c'est un message qui m'interpelle de Marc sur WhatsApp. Il me dit, et un mec comme N'Golo Kanté, il a beaucoup d'ego.
Bien sûr, ah, il en a.
Mais on a
bien
sûr dedans.
À sa manière.
C'est différent. Bien c'est pour ça qu'on comprend beaucoup de choses. Pour être arrivé là, en équipe de France, jouer et titulaire malgré le fait parfois qu'il ait fait des choix de club, jouer titulaire à Chelsea dans les grands clubs en Europe.
C'est que tu es conscient de tes capacités.
Ben évidemment.
Bien sûr.
Voilà. Bon, il y a plusieurs.
Pas confondre l'ego et l'arrogance.
Exactement. Tu vois, par exemple, Christophe me dit sur WhatsApp, Usain Bolt, est-ce que c'était pas le Gault de l'ego? Bah, peut-être. C'est vrai. Vous savez quand il se tapait le torse. Mais c'est plus du
chien.
Mais à chaque fois, comme disait Philippe,
quand tu rentres dans les vestiaires en courant, tu envoies un message en disant mais fais ce que vous voulez. Moi, je suis prêt et je sais que je suis le meilleur.
Ben, vous savez, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a dit cette semaine, voilà. Il ne faut pas confondre l'arrogance avec la confiance. Ceux qui confondent ça sont des imbéciles. Voilà. On l'embrasse. Zlatan, si tu nous écoutes pas.
Bisous.
On sait qu'il nous écoute pas. Et là, il nous appelle au 32-16. je veux participer au jeu du sport. Eh oui, c'est ça peut-être qu'il faut se dire. Participer au jeu du sport en envoyant sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Aujourd'hui, un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print. Et là, je peux vous dire, si vous participez avec vos GG, vous allez affronter une guerre d'ego. Total, c'est ce que je dois maîtriser tous les week-ends. Et c'est pas toujours facile. Allez, les amis, entre le vestiaire en podcast, évidemment. Et puis, dans un instant, on va reparler de la Coupe du Monde. Ça y est, on arrive dans les matchs à muerte, comme dit Philippe Saint-André. Ouais. À tout de suite, Farad.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, les grands égaux du sport ce matin sur RMC avec Mario Martelly, avec Philippe Saint-André, avec Cédric Emmons, avec Jérôme Pinault. Dans un instant, les jeux du sport. On va voir quel GG est la meilleure. Allez hop, j'ai mis un steak là au milieu de la table. On va voir celui qui va aller me chercher.
Moi j'ai pas de petit déjeuner.
Ça peut se jouer entre Philippe et moi là.
Je te confirme. Je vais faire un petit steak haché tranquillement.
Nous c'est steak haché, tu mets tout, les œufs, tout avec.
Attention parce que si Marion se dit que c'est une question de domination, elle va y aller quand même.
Hein. Non, Marion a un peu d'ego.
Non, mais moi, le problème, c'est que j'ai déjà 15 secondes de décalage. Je suis déjà mort de base.
Non. Allez, les amis,
on est prêts, nous.
J'ai mis la serviette autour du cou.
Philippe vient me sauver.
Allez, les amis, la Coupe du Monde avec le début des 16e de finale débute ce soir. La longue, très longue phase de poule est terminée.
RMC Coupe du Monde 2026.
Arrêtons ce cinéma, arrêtons ce cirque. C'est un cirque.
Oh, Wilson Isidore ! La frappe de 25 mètres, le pétard énorme dans la lucarne de Bounou. Ça fait 2-1 pour Haïti.
À la Coupe du Monde, je veux voir le must du must qui se fait en football. Là, c'est pas le cas.
Les supporters haïtiens, ils ont du mal à y croire. Elle est partie tellement fort. Ça fait 2-1 pour Haïti contre le Maroc.
Ça me parle plus, ça me donne plus envie. Je suis d'une frustration terrible.
C'est terminé. Le Cap Vert historique.
C'est horrible. Voilà, je trouve que c'est dénaturé.
Le Cap Vert sera présent en phase d'élimination directe.
J'en peux plus. Ça m'est égal, le Curaçao, l'Iran, l'Irak. Je veux pas les regarder, ça m'intéresse pas.
Mais avec 3 points. 3 matchs nuls en autant de matchs. Les requins bleus terminent deuxième de ce groupe.
C'est pas possible de regarder 104 matchs. Personne va pouvoir regarder 104 matchs. Donc on t'oblige à ne plus regarder les matchs.
Légalisation ! Domenencia ! Pour l'histoire, pour le premier but des Curaciens dans une Coupe du Monde.
Et au bout d'un moment, j'en peux plus. Le football, je fais une overdose. J'en peux plus.
RMC, les GG sur le buzzer.
Ouais, et un brocard pour Christophe Dugas.
On va faire une Coupe du Monde à 8 pour Christophe.
Ah oui, Dugas, il est un peu. Ça l'a pas fait kiffer, cette phase de
ça
poule.
Ça peut s'entendre.
Début des 16e de finale de la Coupe du Monde aujourd'hui. Ça y est, on y est sur les matchs à muerte avec Afrique du Sud, Canada à 21h. On a donc vécu vous en êtes peut-être pas rendu compte parce qu'il y a eu des matchs pendant la nuit, beaucoup. 72 matchs en 18 jours. Il y a eu 72 matchs en 18 jours. Oui. Et 16 équipes sur les 48 ont été éliminées. Donc, moins de la moitié, assez largement. Aucun véritable gros n'est tombé. Alors, éventuellement, l'Uruguay, la Turquie, je sais pas si on peut les considérer comme des gros, mais comme des outsiders, en tout cas. La belle histoire, c'est le Cap-Vert qualifié, contre l'Argentine en 16e de finale. Ce sera vendredi. Les GG, je vous pose la question, tout simplement, parce que, Dugas, s'il était là, je connaîtrais sa réponse.
Oui,
est-ce que la Coupe du Monde débute enfin? Je veux, s'il vous plaît, de l'honnêteté. Philippe Saint-André.
Pour moi, oui.
Jérôme Pinault.
Non.
Mario Bartoli.
Non.
Cédric Emmons.
Oui.
Ah, de oui, de non. On vous attend au 32-16 sur WhatsApp au 06-12-424-424. Jérôme, toi, tu as kiffé la phase de poule? Tu le disais déjà la semaine dernière.
Ouais, bien sûr, j'ai vu des équipes qualifiées à cette Coupe du Monde. Ça permet de voir plus d'équipes, plus de clubs, plus de pays. Alors oui, c'est sûr que ce décalage horaire, le fait que ce soit aux États-Unis, évidemment, ça nous protège de l'overdose, parce que là même en Europe, tu vois tous les matchs, il y en a toutes les heures, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, me poser la question, est-ce que la Coupe du Monde débute maintenant parce que ça y est, enfin, on a des grandes nations qui vont s'affronter? Non, parce que demande au Portugal, je pense qu'elle bien commencé leur Coupe du Monde, et elle est si bien commencée depuis trois matchs qu'ils vont affronter la Croatie tout de suite. Donc ils sont loupés. Ouais, et ça, c'est des choses que l'on pouvait peut-être pas voir. Et puis moi, ce que j'adore, alors évidemment, on parle de la phase de poule, mais on a des 16e de finale. C'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà des matchs
à élimination directe.
Là, aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. C'est ces matchs-là qui nous donnent les frissons, mais pour les avoir, il faut élargir. Moi, ça m'a pas fait de peine de voir le Curaçao, le Cap-Vert et toutes ces équipes-là. Et
tu prends les histoires. Mais il se passerait pas trop de belles histoires, trop de petites histoires en fait dans la Coupe du Monde.
Ben si à la fin,
comme dit Dugas,
à la fin, on a. Je les rejoins et Daniel Riolo porte ce message-là. C'est historique. Évidemment, c'est historique puisque de toute façon avant c'était pas possible.
Oui.
Il y a des équipes qui se qualifient. C'est possible et parce que il y a ce format à 48 équipes. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que l'émotion pour les peuples, pour réunir, pour voir d'autres équipes jouer, il fallait le faire comme ça. Pourquoi moi, un champion du monde, il y a des catégories, il y a des sports, je te prends le WRC, il est champion du monde, ils sont 4 au départ. Moi là, ils sont 48, au moins on sait quelle est la meilleure nation.
Il y a les qualifs.
Moi, pourquoi il démarre ? Parce que c'est les matchs à élimination directe. Après, je suis un peu d'accord avec toi d'ouvrir, mais derrière, j'ai un petit Roland de sport business qui fait qu'on ouvre, on ouvre, on ouvre.
Mais oui, mais ça, Cédric, on y est dans le sport business. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas nous qui allons dire, on n'y va plus.
Mais de découvrir des nouvelles nations, ça me pose aucun problème.
Et il n'y a pas eu de ridicule. Moi, je suis tellement amoureux.
Je l'ai vu en plus ce match.
Et la Suède a pris 5-1 contre les Pays-Bas, on les affronte en 16e.
Et moi, je suis tellement amoureux des matchs à élimination directe que c'est pour ça, pour moi, ça démarre maintenant. Mais après, mon côté romantique aime ces histoires, le Cap-Vert et autres qui arrivent à se qualifier via meilleur 3e. Oui, c'est toute la magie d'une Coupe du Monde. Donc c'est un.
Mais ce qui t'intéresse vraiment, c'est le moment où c'est élitiste.
Oui, non, mais en fait,
oui,
c'est
mais
comme
t'es
si
obligé de passer par des phases de poule pour avoir des
secondes
et troisièmes.
Marion.
Mais les matchs à élimination directe, c'est ce qui donne la quintessence d'une Coupe du Monde parce que t'as ce frisson en plus.
Je sens que Marion va nous dire, c'est comme si tu regardais pas la première semaine d'un grand chelem.
Ben oui.
Eh ben ouais, exactement. Ben exactement. C'est comme si on disait, ouais, mais bon, Sinner en première semaine, il va découper, donc ça m'intéresse pas. Je regarde qu'à partir des huitièmes, ben non.
Marion, tu regardes tous les sports comme ça quand.
Non, mais c'est vrai. On a vu qu'à Roland Garros, ben finalement, il s'est passé quelque chose et qu'en première semaine, ben c'est pas aussi évident de passer. Et je pense que l'équipe de France.
Dès le début.
Marion, je ne suis pas d'accord avec toi, surtout... Marion, parce que en tennis, tu perds, tu es éliminé, donc on ne voit plus.
Oui, mais d'accord, mais tu dis que généralement les plus gros vont passer, tu vois.
Je vais regarder le premier tour à Wimbledon. Je suis désolé, moi je suis moins passionné de foot que Jérôme et que Marion. J'ai pas vu un match entier. Je vais commencer à regarder les matchs à partir des 16e de finale. Sinon,
mais ça, c'est ton avis, mais moi, par exemple, tu vois, de voir l'Algérie contre l'Autriche hier, qui nous a offert franchement un des matchs les plus fous depuis le début de cette Coupe du Monde, avec un 3-3, où finalement les deux équipes se qualifient. Le gardien du Cap-Vert qui évolue en deuxième division portugaise,
c'est celui qui a 40 ans. Ouais.
qui a 40 ans, qui est passé à 17 millions de followers au vu de sa performance contre l'Espagne. Alors, pour vous donner une perspective, Neuer, qui est considéré comme un des plus grands gardiens de l'histoire du football, qui a 14 millions de followers. Moi, des histoires comme ça, je suis désolée, effectivement. Alors, je suis peut-être fleur bleue, ils vont me dire, peut-être les puristes du foot vont me dire, elle est trop fleur bleue et elle regarde que des matchs, effectivement, des histoires à raconter. Mais moi, j'aime bien ces histoires à raconter. Ça va pas nous empêcher d'avoir les plus gros qui vont passer. Mais je vous rappellerai quand même des petits stats. L'Espagne, championne du monde en titre, qui avait remporté la Coupe du Monde en 2010, sont éliminés en poule en 2014. L'Allemagne, championne du monde en 2014, éliminée en 2018 dans les poules. Et l'Italie, championne du monde en 2006, éliminée en 2010 dans les poules.
Là, tu donnes un argument contre, parce que justement, c'est la Coupe du Monde à 48. Là, on parle de l'intérêt dans la phase de groupe. C'était une Coupe du Monde à 32, celle que tu nous donnes. Donc, tout le débat, c'est est-ce que l'élargissement n'a pas enlevé un peu de suspense, hein, comme le disait Philippe. Ce qui est intéressant dans deux semaines de Grand Chelem, c'est qu'à chaque fois, un match élimine. Là, on l'a dit, on a passé deux semaines de compétition. On a passé deux semaines de compétition et il y a quand même peu d'éliminés.
Mais il y a quand même des éliminés. Et tendu. Puis surtout, si tu te plantes, c'est pas le même tirage au sort dans les 16e.
Ah oui, mais si tu te plantes, t'as également beaucoup de possibilités encore de te relever.
Oui, d'accord. Mais quand tu permets. Tu permets à d'autres nations quand même de les voir évoluer. Moi, je suis désolée. Alors, j'ai pas pu suivre tous les matchs, bien évidemment, et de très très loin. Mais tout ce que j'ai vu, les stades étaient pleins. Il y avait des ambiances un engouement exceptionnel derrière les petites équipes. Ça permet quand même à des nations qui sont peut-être moins mises en valeur dans le reste de l'année.
Marion, c'est une fête. Les stades sont pleins parce que peu importe le match, les gens vont faire la fête.
Mais oui, mais c'est ça aussi le sport.
À 72,
c'est ça aussi le sport. Et je suis désolée. C'est pas parce que c'est pas des matchs à élimination et que c'est des matchs de poule que c'est moins intéressant. Alors bien sûr qu'on va tous suivre les matchs à élimination directe parce que là la compétition s'arrête pour une équipe, mais c'est pas parce que, enfin, pour moi Didier Deschamps il a pas pris les phases de poule, genre c'est bon, de toute façon on est sûr de passer quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas les gars, tu vois. Donc
j'espère
que la compétition elle a bien commencé dès le premier jour pour l'équipe de France, et pas à partir des 16e.
Boris sur WhatsApp qui me dit cette Coupe du Monde c'est l'école des fans pour l'instant. Regardez, le Cap-Vert s'est qualifié après 3 matchs nuls. Mathieu au 32-16 est avec nous. Salut Mathieu.
Eh ben écoutez, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu, bon,
Mathieu. Hein.
En phase avec ce qui vient d'être dit partiellement, mais effectivement, ça permet d'ouvrir en fait, de voir ces petites équipes. Ça change rien, ça permet de voir des équipes qu'on n'aurait jamais pu voir avant. Ça met en évidence des petites nations. Ah, c'est magnifique, non, honnêtement. Et puis la Coupe du Monde, on va dire qu'elle va commencer, oui, sérieusement à partir des 16e, mais elle a déjà bien commencé, techniquement, tactiquement. Ça a permis de jauger. On voit que Didier Deschamps, lui, vous le voyez bien, le milieu de terrain, il change, il évolue, il se jauge encore avec Hernandez, Digne, il sait pas trop.
Que les phases de poule soient là pour régler ton équipe, faire des ajustements. Mais honnêtement, tu vas commencer à trembler maintenant. Est-ce que la Coupe du Monde, c'est bien d'ouvrir à 48? C'est pas la question. C'est quand est-ce qu'elle commence?
Non, mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est que au rugby, les amis, vous avez fait la même chose, hein. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, maintenant, il y a plus de nations. Non, donc, est-ce que la phase de poule, est moins intéressante maintenant, la Coupe du Monde?
Georges, moi, le rugby, parce que c'est ma passion, mais je comprends que les non-initiés regardent pas les matchs de poule et commencent à s'intéresser à la Coupe du Monde de rugby à partir des phases finales. Et moi, sur cette Coupe du Monde de foot, je fais exactement pareil.
Au rugby, il n'y a jamais de surprise à la Coupe du Monde, pratiquement, en phase de poule en plus.
Les audiences parlent d'elles-mêmes. Regardez les audiences.
Non, mais les audiences sont bonnes, t'as raison.
Oui, c'est 14
Mathieu.
Millions et quelques sur l'équipe de France.
Et même l'Argentine-Algérie à 3h du matin, Mathieu. T'as regardé beaucoup de matchs la nuit, Mathieu?
Ouais, j'en ai regardé quelques-uns, je me suis endormi, c'est un petit peu difficile pour les nations, alors pour nos amis algériens, marocains, les matchs en décalage, je pense que ça devait être compliqué, mais ils l'ont fait, ils l'ont regardé. Nous, ça a été un peu plus facile, bon, mis à part le match coupé en saucissonné en 3-4. Mais elle est hyper intéressante. Après, effectivement, les puristes diront que la Coupe du Monde va commencer à partir du 16e, attention.
Oui, mais ça, on peut avoir deux écoles. Je pense que c'est quand même important.
Mais il y a surtout un message, on peut retenir un message aussi, c'est que cette Coupe du Monde, c'est une coupe pour tout le monde et ça gêne qui, à partir du moment où je te rejoins, on est dans le sport business, ça gêne qui de voir un peuple heureux comme le Cap Vert, un peuple heureux comme Curaçao qui va venir faire une coupe. C'est génial pour eux, ça gêne qui,
pour tout le monde, oui et non, pas pour l'Iran malheureusement, parce que vous voyez bien que malheureusement les États-Unis n'ont pas fait le job et n'ont pas ouvert, ça c'est vraiment le point noir entre l'histoire de l'arbitre et ça, franchement c'est ce qui ternit cette Coupe du Monde, mais autrement franchement elle est belle. il y a de l'ambiance, les stades sont pleins, les gens sont heureux. Non, il y a tout est beau. Malheureusement, c'est terni par ces deux petites, enfin, deux faits, on va dire. Ça, c'est vraiment dommage de pas avoir mis tout le monde au même niveau sur cette Coupe du Monde.
Je vous redis, c'est pas l'ouverture à d'autres nations qui ternit cette Coupe du Monde. C'est que réellement, la question, c'est quand est-ce qu'elle démarre? Elle démarre, pour moi, maintenant. Parce que tu as les matchs à élimination.
Mais pas pour
direct.
Les sélectionneurs, pas pour les sélectionneurs mais, et pas pour les équipes. Les automatismes sont mis en place amicaux. Dans les poules.
Non, mais l'idée du gars, c'était de dire, il l'a exprimé très clairement d'ailleurs, c'est il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs.
Oui, mais en plus.
C'est la même chose en Ligue des Champions. Là, par exemple, je suis sûr que certains découvrent qu'il y a des 16e de finale. Moi, je suis du genre à penser 16e de finale, c'est trop. Tout comme à l'Euro, par exemple, à l'Euro, quand on a commencé à mettre les meilleurs 3e, quand on a commencé à mettre un tour supplémentaire. Souvenez-vous, alors en 2016 en France, avant d'affronter l'Allemagne en demi-finale, on n'a pas joué un gros match.
Ça fait trop
on a joué l'Islande, on a joué l'Irlande du Nord.
On va rejouter les meilleurs troisièmes pour qualifier. Ça fait aller la fête. Aller
non mais regardez l'Argentine. L'Argentine, je vais vous faire le parcours de l'Argentine. Champion du monde en titre. Ils vont jouer en 6e de finale le Cap-Vert. Ils vont peut-être jouer en 8e de finale l'Australie ou l'Égypte. Sans manquer de respect, ce sont pas des grandes nations. Ce sont des nations importantes, mais ce sont pas des grandes nations de mondiales. Donc de la partie de tableau de l'Argentine, de par cette ouverture importante, fait que tu as l'impression qu'ils ont une voie royale pour aller en demi-finale. Mais c'est ça aussi la critique.
Non, mais
de,
ça, c'est les aléas du tirage au sort. Écoute, voilà, c'est les aléas du tirage. Mais c'est pas dû au fait qu'il y ait des CM de finale que l'Argentine ait un boulevard pour aller éventuellement. Et puis les
quand
boulevards.
Quand tu as 48 équipes, c'est plus
possible. Faut quand même les jouer, les matchs.
Tu peux faire les 32e.
Ouais, non, mais faut quand même aller les jouer.
Tu sais, ils veulent faire une Coupe du Monde en 64 maintenant. Hein, donc
32e de finale.
Non, mais les amis, en fait, ça existait. Mais en fait, le problème,
il y aura quand même un très beau vainqueur. À la fin. Hein.
Ah oui, mais là,
il y aura quand même des audiences.
Ça, mais là, on s'arrête tout, en fait, les amis, parce qu'on fait une Coupe du Monde en 64, ce sera tout aussi bien parce qu'il y aura encore de meilleures histoires.
Mais si t'écoutes Marion et Jérôme, oui.
Bah, la prochaine, elle est dans 5 pays différents.
Ce sera en Argentine, en Uruguay.
Donc, ils font en Argentine, Uruguay, par Uruguay. Tout le monde, hein.
Ouais, tu fais là, celle-ci, elle est sur 3 pays différents. Le Mexique, le Canada, les États-Unis. Si t'as pas 48 équipes au départ, tu fais comment pour faire des matchs dans 3 pays?
Mais c'est pour ça qu'il faut poser peut-être la bonne question de dire, tu veux organiser la Coupe du Monde, tu la gères tout seul. Un pays la gère.
Ouais, mais c'est impossible.
Ouais, mais après, il faut l'économie derrière.
Exactement.
Le problème, c'est qu'il y a des raisons économiques aussi.
Je vous rappelle qu'évidemment, dans le choix d'avoir beaucoup de nations, alors, il y a l'universalisme, évidemment, qui est donné. Je rappelle évidemment une donnée importante, c'est qu'à la FIFA, pour élire un président, un pays égale une voix. Un pays égale une voix. Donc, évidemment, Gianni Infantino,
on va peut-être pas faire les ravis de la crèche en pensant que le sport n'est pas de la politique, quand même. On va peut-être pas faire les ravis de la crèche.
Surtout pas dans la grande gueule du sport, on n'en parle jamais. C'est pas de la politique.
Politique et sport, on ménage.
Allez, je remercie Mathieu d'être venu au 32-16, évidemment. Alors, j'ai beaucoup de messages sur WhatsApp. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu comme vous, Jérôme et Marion, et qui ont kiffé les histoires du Cap-Vert, les histoires du Curaçao, l'histoire du gardien de but du Cap-Vert, comme tu l'as dit.
On est des romantiques avec
Jérôme. Des romantiques. Oui. Mais il y en a qui assument que, voilà, ça, on va se réveiller.
Mais ça s'entend aussi, hein, attention, ouais, hein, ça s'entend aussi.
Que maintenant,
hein.
Dans les matchs,
il y en a que ça ennuie, parce que je trouve que l'image de la semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Youri Djorkaeff qui est assis à côté du président de la FIFA.
Qui s'est endormi.
Et il s'est endormi.
Ah ouais, bon, bah, ça arrive au plus grand. Je crois que Donald Trump s'est endormi lors des finales NBA au Madison Square Garden. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça arrive à Christophe Cessieux parfois en pleine émission.
Oui.
À tout de suite,
oui,
je
joue
du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Ah, ça, c'était un des grands moments de l'année, hein, le Et allez l'OM.
Et allez l'OM.
Qui rappelle est manager de Provence Rugby, donc il ne peut pas dire autre chose, tout simplement. Alors qu'on a
beaucoup de supporters de l'OM qui viennent à Provence Rugby.
Ah, voilà, c'est ça. Il y a Marion, bon, tu veux parler de Marion?
Marion, ouais, bien sûr, je vais l'inviter.
Ah,
l'inviter
quand elle veut.
Faut qu'elle donne un coup d'envoi. Je veux la voir taper avec un ballon ovale.
Ouais.
Allez, tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Deux contre deux, vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Équipe, allez l'OM, Bartoli Saint-André. Et l'équipe Émance Pinot.
L'équipe vélo.
C'est vrai, parce que Cédric fait du vélo.
J'adore.
Pendant 24 heures, par exemple.
Ouais, exactement.
Allez, question activable. Question impossible, activable par un seul joueur, par émission. Je vous rappelle que... une bonne réponse, c'est 3 points, une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. J'accueille les auditeurs, Théo et Grégoire. Bonjour Théo et Grégoire.
Bonjour les GG.
Salut.
Bonjour.
Théo, tu nous appelles d'Épinal, Grégoire de Tourcoing. Théo, c'est toi qui as appelé en premier. Tu veux être dans quelle équipe? Bartoli Saint-André ou Émance Pinot?
Eh ben, je vais jouer avec Bartoli Saint-André.
Bartoli Saint-André pour Théo.
J'ai jamais été choisi en premier.
Et Grégoire. Ça, c'est, on a l'impression, c'est le petit traumatisme de l'enfance.
Ah, voilà.
Tu sais, quand tu faisais souffleur, j'étais le mec qui restait sur le bord.
Quand tu faisais les équipes dans la course, mais, toi, ouais. tu restes le dernier. Bon, ouais.
Bah, j'espère que
pose-toi les bonnes questions.
J'espère que ça va aller quand même, Cédric. Allez, remporte aujourd'hui.
Bien joué. Notre ego va reprendre le dessus et on va gagner.
Un beau cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print à gagner aujourd'hui. Allez, c'est parti, les amis. Question à plusieurs réponses. Question à plusieurs réponses. Cédric Pioline est le dernier Français à avoir atteint une finale masculine à Wimbledon en 97. En 97. Qui l'a battu ?
Pete Sampras.
Pete Sampras. Mario Bartoli.
Ouais, cadeau, c'est servi sur un plateau, ça.
Bartoli quiz.
Allez, vas-y.
Question à une seule réponse. Quel est le prochain adversaire du 15 de France ?
Les Blacks. La Nouvelle-Zélande.
Les Blacks. Cédric Clément, ce sera samedi prochain.
Oh, non.
À la matinée. Ouais.
Et si on répond aussi vite, ça ne fait pas deux points ?
Non, ah ouais,
en plus, il y en a un qui a dit les Blacks, l'autre à Nouvelle-Zélande, ça fait deux points.
Question pour Théo et Grégoire. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom.
Allez, Grégoire.
C'est OK pour vous ?
Grégoire,
Théo. Théo.
Vous ne pouvez pas participer.
Allez, Grégoire.
Théo et Grégoire. Quelle est la dernière Française à avoir remporté Wimbledon ?
Bartoli,
Grégoire. Oh, Grégoire.
Voilà. Et Marion, non. T'es obligé de perdre maintenant.
Tu vois. C'est une mauvaise réponse. C'était Alizé Cornet.
Cadeau.
Je t'embrasse, Alizé. Je sais que tu nous écoutes et que tu adores.
Ah, j'ai croisé hier.
Ah bah voilà. Les grandes gueules, c'est incroyable. Ouais. Allez, question à une seule réponse. 2-1 pour l'équipe Aimant Spino. Nous sommes en 2026. On est d'accord ?
Oui.
Là, une seule réponse possible. Hein. Il y a 20 ans. Quel joueur français marqué contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde ?
Zidane.
Non.
Platini.
Non.
20 ans, non, il y a.
Henri.
Thierry Henry.
Mario Bartoli. C'était une seule réponse possible.
Et oui,
c'est Thierry Henry. La passe de Zidane sur le
Pirate. Ah, c'était qu'une réponse.
Pour Philippe Platini et joueur de Fils. Donc il y avait un
point.
Zidane pour Platoche. Platoche pour Zidane. Et but.
Très aigué au fond du filet.
Il y a 20 ans.
Philippe qui jouait avec Antoine Dupont hier, je vous rappelle. 2-2 entre l'équipe Bartoli et Saint-André et Aimant Spino. Question. Question à une seule réponse possible. Le Tour de France s'élance à Barcelone dans une semaine. Qui est le dernier vainqueur espagnol de la Grande Boucle ?
Delgado ?
Non.
Contador.
Contador, Marion.
Oui.
Bien, Marion.
J'ai bugué là.
Ah ouais, Jérôme, regardez, c'était
terrible.
Erreur 404.
Terrible. Erreur 404, exactement.
Allez, question pour les auditeurs. Théo et Grégoire.
Allez, Théo.
Votre réponse et votre prénom. Qui a terminé deuxième du Tour de France l'année dernière ?
Vanderpool.
Non. Grégoire. 5, 4, 3, 2.
Non, je l'ai pas.
1, c'était Jonas Vingegaard.
Deuxième. C'est pas grave, Théo. T'as bien tenté. C'est bien, Théo.
3-2 toujours. Question à élimination pour 2 points. Attention, vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé comme ça. Donnez-moi, s'il vous plaît, les amis, les 32 équipes qualifié en 16e de finale de la Coupe du Monde de football. On commence par Philippe Saint-André.
France.
C'est fort. Cédric Emmons.
Cap-Vert.
Le Cap-Vert, c'est bon. Marion.
Espagne.
L'Espagne, c'est bon. Jérôme.
Le Portugal,
c'est bon. Je rappelle que si vous donnez une réponse qui a déjà été donnée, vous êtes éliminé.
L'Argentine.
T'es dans mon cœur, Philippe. Cédric.
Suède.
La Suède, c'est bon. Tiens, on va donner la parole à la Suédoise des GG. Marion.
Les Pays-Bas,
c'est bon. Jérôme, on cherche les 32 équipes qualifiées.
Le Maroc,
c'est bon. Philippe.
L'Angleterre,
évidemment, t'étais obligé. C'est bon. Cédric, on cherche.
Le Brésil,
c'est toujours bon. Marion.
La Belgique,
c'est bon. T'étais obligé de le trouver aussi.
Oui, bah oui.
Jérôme. Les 32 équipes qualifiées en 16e de finale de la Coupe du Monde.
Je là quand même.
5, 4, 3.
L'Algérie.
C'est bon, qualifié hier. Je crois que Philippe voulait donner ça.
Oui.
Allez, Philippe, les 32 équipes qualifiées à la Coupe du Monde en 16e. 5, 4, 3.
Le Japon.
Là, t'as allé chercher loin dans ton être. Cédric.
Maroc.
Le Maroc, ça déjà dit, éliminé. Je vous préviens, ça va se jouer là-dessus parce qu'il reste une minute. Marion.
Les États-Unis,
c'est bon. Jérôme.
Le Canada.
Le Canada, c'est bon. Là, ça y est, ça part énervé.
C'est parti.
Philippe. 5, 4, 3. De
l'Irlande.
L'Irlande, non, c'est
l'Italie.
Pas bon. Non, non, c'est pas bon. Il ne reste plus que Jérôme et Marion. Marion. Celui qui gagne, gagne le jeu. Marion.
5. Attends, je l'ai. L'Autriche.
L'Autriche, c'est bon. Le attention. Ghana. Le Ghana, c'est bon. Marion.
La Côte d'Ivoire.
Oh là 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 là. Jérôme.
Le Sénégal.
Le Sénégal, c'est bon. Marion. 5, 4, 3.
Marion, lis pas de
deux. Sorti Marion.
Non Mexique j'ai dit. J'ai dit un Mexique.
Non. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh ben
5,
le 4. La République démocratique.
La République démocratique du Congo. La victoire est pour l'équipe.
Ah, bravo.
Mais non, pourquoi?
Parce
j'ai
que
dit
tu
Mexique.
Tu dit après le oui, timing.
Non, j'ai dit un dans mon casque.
La victoire.
Non, non, là, je suis
Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
Parce que là, vous connaissez pas Marion, là, vous l'avez parlé.
Non, 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 mais Marion, tu l'as dit,
Marion, c'est l'ego et la remise en question.
Non, je suis désolé.
Non, accepte, accepte.
Il faut faire un trash vidéo. Non, je réclame.
Marion, c'est perdu et la victoire est pour
Jérôme. Bravo, Grégoire.
Bravo, Grégoire. Merci, Jérôme. Merci, Marion. Merci, Cédric. Merci, Philippe.
La triche.
Mais non, lâche l'affaire, t'as perdu.
De bonne humeur.
Non, les paris mexicains.
Lucky loser. Lucky loser.
Les paris, c'est tout de suite.
C'est du Mexicain.